Bonjour chers auditeurs, au micro Catherine Mann pour l'émission Chemin de foi, qui vient vous inviter à voyager à la suite de quelques grands témoins de la spiritualité chrétienne. Et à tout seigneur, tout honneur, j'ai voulu vous parler d'abord de celui qui eut un chemin tout à fait extraordinaire, puisqu'il fut choisi par Jésus-Christ ressuscité pour annoncer la foi en monde païen, c'est-à-dire Paul de Tarse, Saint Paul. Lors de notre précédente émission, nous avions quitté Paul à Antioche de Pisidie, dans la Turquie actuelle, où, accompagné de son fidèle ami Barnabé, Paul venait d'annoncer le Christ en s'adressant d'abord, comme à son habitude, aux Juifs dans leur synagogue. Et si dans un premier temps ces paroles furent bien accueillies, très vite les Juifs se scandalisèrent de cet enseignement trop nouveau, je pense essentiellement, un peu difficile à comprendre. Et donc ils organisèrent évidemment une contre-attaque, conspiration contre Paul et Barnabé, et puis ils se débrouillèrent pour les chasser de leur territoire, donc d'Antioche de Pisidie. Pourtant, le message avait quand même pu passer chez quelques-uns, essentiellement, comme souvent, des femmes et des païens. Et ainsi, une communauté chrétienne put quand même se développer dans la région. Mais Paul était en colère contre la résistance des Juifs et il a décidé de se consacrer dorénavant exclusivement à l'évangélisation des païens. Nous suivons donc ce récit de la vie de saint Paul dans le livre biblique des Actes des Apôtres et nous en sommes arrivés là au chapitre 13 avec le verset 11 qui dit ceci. Paul et Barnabé, ayant secoué contre eux la poussière de leurs pieds, gagnèrent Iconium. Voilà, ce geste de secouer la poussière de ses pieds était habituel dans le monde antique. Il signifiait qu'en partant, on voulait absolument ne rien emporter avec soi du lieu que l'on quittait, hein, pas même de la poussière. On coupait les ponts en montrant donc une rupture radicale. Rappelons-nous que Jésus donna cette instruction à ses disciples, je pense dans l'évangile de Matthieu, chapitre 10, au verset 14, « Si l'on ne vous accueille pas, si l'on n'écoute pas vos paroles, en quittant cette maison ou cette ville, secouez la poussière de vos pieds. » Voilà, et bien donc Paul met cela en pratique en quittant Antioche de Pisidie. Nous le retrouvons donc selon le début du chapitre 14 des Actes des Apôtres, qui arrive à Iconium, une ville voisine à environ 180 km, capitale de la Lycaonie, aujourd'hui Konya en Turquie. C'est la ville des derviches tourneurs. Ce fut sans doute un voyage de 180 km à pied, donc dans des conditions pas très faciles. Mais Paul devait être habitué à ces déplacements-là. Pourtant, comme si c'était plus fort que lui, hein, malgré les grandes décisions de ne plus s'adresser qu'aux païens, Paul, accompagné de Barnabé, se dirige, dès qu'il est arrivé à Iconium, directement à la synagogue des Juifs. Et c'est presque le même scénario qu'à Antioche de Pisidie qui va se reproduire. D'abord, tous font bon accueil au message de Paul, puis très vite, certains des Juifs vont être choqués et refuser le message évangélique. Mais ici, il y en a quand même suffisamment qui vont adhérer à l'enseignement de Paul, de sorte que le noyau d'une communauté chrétienne va pouvoir rapidement se former et héberger aussi Paul et Barnabé pendant un assez long séjour, donc à Iconium. Et ils y firent visiblement beaucoup de bien. Voici ce que dit le verset 3 du chapitre 14 des Actes. « Leur assurance se fondait sur le Seigneur, qui rendait témoignage à la parole par sa grâce, en leur donnant d'opérer de leurs mains des signes et des prodiges. » Voilà, donc il y a eu des miracles à Iconium, certainement. Et pourtant, cela ne fit quand même qu'envenimer les choses en divisant la population. Résultat, à nouveau, agitation et colère prirent le dessus. Et carrément, on décida qu'on allait lapider Paul pour s'en débarrasser. Alors, heureusement, l'information est parvenue à leurs oreilles et ils eurent le temps, Paul et Barnabé, de s'enfuir. Et ils reprirent donc la route. Un peu plus loin, toujours en Lycaonie, cette fois pour aller évangéliser les villes de Lystre, puis de Derbé. À Lystre, Paul fut bien accueilli, d'autant que rapidement, il eut l'occasion d'opérer une guérison miraculeuse. Je vous lis ce petit récit, chapitre 14 des Actes, à partir du verset 8. Il se trouvait à Lystre un homme qui ne pouvait pas se tenir sur ses pieds. Étant infirme de naissance, il n'avait jamais marché. Un jour qu'il écoutait Paul parler, celui-ci fixa son regard sur lui, et voyant qu'il avait la foi pour être sauvé, il dit d'une voix forte, « Lève-toi droit sur tes pieds. » Et l'homme bondit, il marchait. Voilà, dans ce texte, il est intéressant de noter que le miracle fut possible parce qu'il y avait une interaction entre la foi de l'infirme et celle de Paul. Hein, c'est pas l'un ou l'autre, c'est les deux qui se rencontrent. Mais une question quand même intervient. En quelle langue Paul s'exprimait-il dans cette région? Parce que là, on est chez des barbares. Dans le sens étymologique du barbare, c'est quelqu'un qui parle une langue qu'on ne connaît pas. Alors, je pense quand même que c'est en grec que Paul devait s'exprimer, parce que l'homme infirme à qui il s'adresse parlait donc un patois local, donc le lycaonien, mais qui devait quand même être mélangé du grec ou proche du grec, puisque c'est ce qu'on peut supposer en lisant la suite du texte des Actes, chapitre 11 à 13, je vous les lis. À la vue de ce que Paul venait de faire, des voix s'élevèrent dans la foule, disant en lycaonien. Bon, apparemment, tout le monde se comprend, hein. Je ne sais pas ce que c'est que le lycaonien, mais c'est un peu comme quand on parle de l'araméen en opposition à l'hébreu. On a l'impression que c'est deux langues très différentes, mais en fait, non. Ce sont des langues qui sont souvent très proches et on arrive à se comprendre. Peut-être qu'ils arrivaient à se comprendre. Dans certains ouvrages d'histoire, on dit qu'ils se comprenaient uniquement par les gestes. Ça, je n'en crois rien. Ils s'élevèrent en disant en lycaonien, je continue le texte, « Les dieux se sont rendus semblables à des hommes et sont descendus vers nous. » Ils appelaient Barnabé Zeus et Paul Hermès parce que c'était lui qui portait la parole. Le prêtre de Zeus hors les murs fit amener taureaux et couronnes aux portes de la ville et d'accord avec la foule, il voulait offrir un sacrifice. Donc voilà qui confirme mon idée que c'est très mélangé de grec puisqu'il s'agit de dieux grecs, Zeus et Hermès. Alors le contexte religieux étant grec, probablement la langue devait être assez proche. Avec tout un arrière-plan mythologique qui fait qu'on prend Paul et Barnabé pour des dieux grecs en visite. Mais évidemment, ils ne sont pas du tout d'accord, hein, Paul et Barnabé. Ils sont fort choqués parce que ce n'est visiblement pas le bon message qu'ils ont réussi à faire passer. Alors Paul entreprend d'expliquer à nouveau, comme quoi il faut de la patience. Et il dit, je cite le verset 15, « Nous aussi, nous sommes des hommes, au même titre que vous. La bonne nouvelle que nous vous annonçons, c'est d'abandonner ces sottises pour vous tourner vers le Dieu vivant qui a créé le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. » Voilà. Alors, si vraiment Paul a traité les dieux grecs et les sacrifices qu'on leur offrait de sottises, je ne suis pas sûr que les résultats de ces paroles et de sa prédication soient vraiment très spectaculaires dans cette ville de Lystre. On ne peut pas, comme ça, dire aux gens qui font que des sottises, et ils accueillent ça difficilement. De fait, comme en fait, des Juifs avaient poursuivi Paul depuis Antioche de Pisidie jusqu'à Lystre. Et ils étaient arrivés et ils profitèrent de cet incident pour retourner la foule totalement contre Paul. Et là, vraiment, Paul fut lapidé. Le verset 19 du chapitre 14 des Actes nous dit « On lapida Paul, puis on le traîna hors de la ville en le laissant pour mort. » Voilà. C'est pas vraiment facile d'être missionnaire. Lapidé, presque mort, Paul se relève. C'est dire s'il avait une énergie hors du commun, parce qu'il y a peu de monde qui survit à une lapidation quand même. Alors, il est aidé de quelques disciples fidèles et il rejoint Barnabé. Et tous deux vont réussir à s'échapper de Lystre et aller vers Derbé. On imagine mal quand même qu'il a fait tout ce trajet à pied, ce qu'aussi sans doute pour une fois fut-il transporté, couché sur un chariot, parce que Derbé, c'est aussi en Lycaonie, mais c'est quand même distant de 140 km. Mais là, il y avait une colonie romaine, donc elle a pu leur apporter du soutien. Je vous rappelle quand même que saint Paul est citoyen romain. Alors Derbé, à l'époque de Paul, c'était une ville extrêmement importante, sinon il n'y aurait pas eu une colonie romaine. Pourtant aujourd'hui, il n'en reste strictement aucune trace. Il y a des villes comme ça qui ont disparu de la carte. Pourtant, bien que ce soit une ville importante à l'époque, les Actes des Apôtres ne racontent presque rien de ce séjour à Derbé. On dit juste qu'ils y ont annoncé la bonne nouvelle et qu'ils ont pu y faire d'assez nombreux disciples. Point. Et on ne sait pas combien de temps Paul va rester là. On suppose au moins plusieurs mois, très certainement, le temps au moins de se refaire une santé et de prêcher l'évangile à ses nouveaux disciples. Ce qui est le plus étonnant, c'est qu'il va décider très vite de reprendre la route et non pas de continuer tout droit sur le chemin qui conduisait à Tarse, donc chez lui, il n'était plus très loin, il n'avait qu'à continuer la route romaine et il revenait à Tarse. Eh bien, ce qu'il décide, c'est juste le contraire. On va revenir sur ses pas, on va repasser par Lystre, par Iconium et par Antioche de Pisidie. Voilà, il est têtu. Il est obstiné et volontaire, il veut savoir ce que deviennent les quelques personnes qu'il avait réussi à convaincre lors de son premier passage. Je crois que c'est un de ses traits de caractère les plus admirables. C'est un homme fidèle en amitié et qui se sentira toujours responsable des communautés qu'il a engendrées. en suivant autant que possible leur évolution. D'où les lettres qu'il leur enverra quand il ne pourra pas se rendre sur place. Il y a un suivi. Donc, voilà Paul qui prend tous les risques en revenant dans les villes où on a essayé de le tuer, pour y retrouver les disciples qu'il avait réussi à évangéliser. Je vous lis le verset des Actes qui raconte cet épisode, chapitre 14, verset 22. Il y affermissait le cœur des disciples et les engageait à persévérer dans la foi. Il nous faut, disait-il, passer par beaucoup de détresse pour entrer dans le royaume de Dieu. Donc les paroles de Paul ne minimisent pas les problèmes. Il ne cache pas qu'être chrétien est difficile et que cela leur demandera du courage. Mais il en est l'exemple vivant. Alors c'est encore vrai de nos jours, même si les circonstances sont différentes dans certains coins du globe en particulier. Mais Paul ne fait pas qu'encourager ces premières communautés. Il vient aussi leur donner une structure. Une organisation, c'est les débuts d'une organisation ecclésiale pour aider la communauté à tenir sur le long terme. Je vous lis le verset 23. Dans chaque église, ils leur désignèrent, ils pluriel, donc Barnabé et Paul, des anciens. Ils firent des prières accompagnées de jeûnes et puis les confièrent au Seigneur en qui ils avaient mis leur foi. Donc dans chaque église, ils désignèrent des anciens. C'est une première forme de délégation de l'autorité pour la communauté. Ces anciens sont les responsables locaux, mais qu'est-ce qu'un ancien ? C'est forcément quelqu'un qui a fait ses preuves, au moins pour la foi, une foi plus sûre, plus solide, peut-être plus aguerrie que les autres, peut-être plus vieux, ancien, donc avec plus d'expérience. Rappelons qu'ancien se dit en grec presbytéros et que c'est donc l'origine du mot prêtre, presbytère. L'ancien avait en effet aussi la charge d'organiser la prière et les rites eucharistiques pour l'église locale. Il devait être aussi, comme Paul lui-même, un enseignant fidèle à la tradition reçue des apôtres, un conseiller spirituel et un pédagogue. Bref, l'ancien devait autant que possible personnifier Paul lui-même après son départ. Et ce départ ne tarde pas, parce que toujours Paul a déjà en tête de nouveaux projets et est toujours prêt à partir. Donc dès la suite des versets du chapitre 14, versets 24 à 27, je vous les lis. « Traversant alors la Pisidie, ils se rendirent en Pamphylie, annoncèrent la parole à Pergé, puis descendirent à Attalia. De là, ils firent voile vers Antioche, leur point de départ, où ils avaient été remis à la grâce de Dieu pour l'œuvre qu'ils venaient d'accomplir. À leur arrivée, ils rassemblèrent l'Église et racontèrent tout ce que Dieu avait réalisé avec eux et surtout comment il avait ouvert aux païens les portes de la foi. Ils passèrent alors un certain temps avec les disciples. » Voilà, ainsi se termine ce qu'on a l'habitude d'appeler le premier voyage missionnaire de saint Paul, qui revient donc à son point de départ à Antioche de Syrie.
Thank you.
retour à son port d'attache en Syrie, Paul va être affronté à un problème interne à la communauté des croyants. Certains d'entre eux qui venaient de Judée étaient d'avis qu'il fallait absolument que les chrétiens conservent les rites indispensables au judaïsme, et surtout le principal, la circoncision. Il leur semblait que tout salut serait impossible sans le respect de ces rites de l'alliance avec Dieu. En effet, la mission que Paul avait entreprise d'aller évangéliser les païens avait porté du fruit assez abondamment, et il y avait beaucoup de convertis d'origine païenne. Alors, comment fallait-il les traiter ? Fallait-il qu'ils soient également incorporés au judaïsme ? Ou pouvaient-ils s'abstenir des rites juifs et être quand même de bons chrétiens ? Pressés de répondre à ces questions, Paul et Barnabé choisirent de se mettre en route pour Jérusalem afin d'aller en discuter avec les apôtres Pierre, Jacques et Jean et les anciens de l'église mère. Alors, ils sont évidemment soutenus pour ce voyage par toute la communauté d'Antioche. Arrivés à Jérusalem, ils sont, comme toujours, bien accueillis par la communauté locale, où ils commencent d'abord par raconter le voyage missionnaire qu'ils venaient d'accomplir et la création des nouvelles communautés chrétiennes, même petites, en précisant bien sûr qu'il y avait maintenant parmi eux de très nombreux païens qui avaient reçu le baptême et que cela commençait à poser des problèmes vis-à-vis de certains judéo-chrétiens qui voulaient leur imposer l'obéissance à la loi de Moïse. Alors, les discussions qui s'ensuivirent à Jérusalem eurent une telle importance qu'elles sont restées dans la mémoire chrétienne comme le premier concile, le concile de Jérusalem, qui va donner peut-être un modèle pour tous les conciles qui vont se déployer dans l'histoire ensuite. Pierre y prend d'abord la parole pour raconter sa propre expérience. Je vous lis les versets 7 à 9 du chapitre 15 des Actes des Apôtres. Pierre dit « Vous le savez, frères, c'est par un choix de Dieu que dès les premiers jours, les nations païennes ont entendu de ma bouche la parole de l'Évangile et sont devenues croyantes. Dieu qui connaît les cœurs leur a rendu témoignage quand il leur a donné, comme à nous, l'Esprit Saint. Sans faire la moindre différence entre elles et nous, c'est par la foi qu'il a purifié leur cœur. Tous, même à Jérusalem, ils ont pu remarquer que des païens avaient été convertis et traités par Dieu exactement comme les Juifs. Ce qui signifie que c'est la sincérité de la foi qui fait le croyant, pas ses origines. Donc il confirme le point de vue de Paul. Et il va pousser encore plus loin son raisonnement, en tirer des conclusions assez dures et importantes, versets 10 et 11. « Dès lors, pourquoi provoquer Dieu en imposant à la nuque des disciples un joug que ni nos pères ni nous-mêmes n'avons été capables de porter ? Encore une fois, nous le croyons, c'est par la grâce du Seigneur Jésus que nous avons été sauvés exactement comme eux. » C'est dur, parce que ça dit aux Juifs que le judaïsme, quelque part, est un cul-de-sac s'il n'aboutit pas au Christ. Ce sont exactement les mêmes arguments que Paul reprendra plus tard dans ses épîtres, principalement Galates et Romains, quand il dira « Pourquoi imposer une loi que personne n'a jamais vraiment réussi à mettre en pratique ?» Et que finalement, c'est la grâce de Dieu seulement, celle qui est offerte en Jésus-Christ, qui a porté le salut. Donc la seule nécessité, c'est la foi. Tout le monde est ramené au même plan. Comme le dira plus tard Paul dans une épître, en Christ, il n'y a ni juif, ni grec, donc ni juif, ni païen. C'est quand même pas facile pour les Juifs d'entendre que leur foi est incomplète. Après cette intervention de Pierre, Paul et Barnabé vont à leur tour pouvoir s'exprimer donc, dans cette assemblée, verset 12. Il y eut alors un silence dans toute l'assemblée. Je comprends. Puis, on écouta Barnabé et Paul raconter tous les signes et les prodiges que Dieu avait accomplis par leur intermédiaire chez les païens. Voilà, des faits sont là, des signes et des prodiges pour confirmer qu'il y a un unique appel chrétien qu'il s'adresse aux juifs ou aux païens. Alors, il faut quand même reconnaître que ça demande aux chrétiens d'origine juive de ne plus mettre en avant leur élection et de ne pas revendiquer de supériorité à cause de leur première alliance. Et cela ne sera pas facilement admis, et on le verra dans l'Épître aux Romains. Paul rencontrera des résistances, et il se heurtera encore souvent à ce problème dans des communautés. Mais pour l'heure, le Concile de Jérusalem va se conclure avec la dernière parole d'autorité, celle de Jacques, qui va proposer un compromis acceptable par tous. Les versets 19-20, je vous les lis. « Je suis donc d'avis, dit Jacques, de ne pas accumuler les obstacles devant ceux des païens qui se tournent vers Dieu. Écrivons-leur simplement de s'abstenir des souillures de l'idolâtrie, de l'immoralité, de la viande étouffée et du sang. » Donc Jacques propose de ne garder de la loi de Moïse qu'un strict minimum de règles de pureté. Et pourtant, si l'idolâtrie et l'immoralité resteront bien sûr exclues pour les chrétiens, les interdits alimentaires, et surtout ceux autour de la consommation du sang, ils vont bientôt disparaître. Mais ça, c'est une autre histoire. Pour le moment, l'Assemblée de Jérusalem étant arrivée à un accord, Paul va pouvoir retourner à Antioche, conforté dans ses positions d'ouverture de l'évangélisation à toutes les nations, sans qu'il leur soit demandé d'adhérer au judaïsme. Barnabé repartira avec lui, ainsi que deux délégués de Jérusalem, Judas, Barsabas et Silas, chargés d'apporter la lettre qui va résumer les décisions centrales, aider à la mettre en pratique et, comme on dit, à remettre les pendules à l'heure, et aussi apporter à l'église d'Antioche encouragement et soutien de la part de l'église de Jérusalem. Tout cela étant accompli dans la paix et la fraternité, ils retournèrent chez eux à Jérusalem, tandis que Paul, lui, se préparait déjà pour de nouvelles aventures dont nous parlerons dans une prochaine émission, car il est temps de nous quitter. Et je vous dis au revoir, chers auditeurs, et à très bientôt.